Pour ceux qui nous rendent visite, peut-être ne le savent-ils pas, mais mon épouse et moi-même, Yvonne et moi, on part pour Cannes la semaine prochaine. C'est donc notre dernier dimanche ici. Et c'est donc la der des der pour la prédication. Ma dernière prédication à Pau. Et c'est toujours un peu difficile, un exercice un peu compliqué que d'aborder cette dernière fois. On a envie de tout dire, de léguer son testament spirituel et de dire des paroles qui vont rester à jamais gravées dans les mémoires et dans les cœurs. Mais en même temps, ce n'est pas en une fois que l'on peut dire toutes ces choses. Surtout quand on a le nez, non pas dans le guidon, mais dans les cartons. Et dans le démontage des meubles IKEA. Et en plus, quand on est dans le souvenir très frais du mariage de Michel et Sandra, qui a eu lieu hier soir au fin fond du Gers. Alors, on est rentré un peu tard. Mais Yvonne et moi, on est admiratifs devant ce que Dieu peut faire dans les vies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix sont parfois impénétrables. Mais il fait de toutes choses de bonnes choses. Et c'est un privilège d'être spectateur de ce qu'il fait dans son Église. Alors, ce matin, je voudrais simplement vous dire quelques mots d'encouragement de manière un peu décousue. Et je vous demande de me pardonner. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais j'aimerais d'abord souligner, et j'ai déjà prononcé ce mot, que ça a été un privilège d'être parmi vous pendant ces 8 années, d'avoir d'abord eu le privilège de partager la parole de Dieu qui demeure parmi nous, comme le dit l'épître de Paul aux Colossiens, dans toute sa richesse. Parce qu'elle est au centre de notre communauté, de notre vie communautaire, et qu'elle rebondit de tête en tête, de cœur en cœur, et à chaque impact, elle révèle un trésor en chacun d'entre vous. C'est ça la richesse. Un privilège de vous avoir côtoyé, d'avoir appris à vous connaître, et oui. Et un privilège surtout d'avoir servi le Seigneur avec vous. Et je me redis qu'il n'y a rien qui rapproche le plus que le service de Dieu partagé. Le service que l'on accomplit ensemble. Oui, c'est un privilège de servir Dieu ensemble. Chacun selon ses dons et ses capacités, mais ensemble. C'est un privilège et je crois que ce sens du privilège doit continuer à nous accompagner, nous à Cannes, vous à Pau. Pour Paul, par exemple, c'était vraiment ce qui le gardait motivé dans la course de la vie chrétienne. Non pas le sens du devoir, non pas l'obligation du résultat, mais le sens du privilège. C'est une grâce pour Paul de travailler pour le Seigneur, de servir le Seigneur. Et je pense que ce sens du privilège, il peut s'étendre à toute notre vie. C'est un privilège de vivre devant Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait de vivre. Alors évidemment, il y a des moments dans la vie, et Laurence en parlait tout à l'heure, où on a du mal à se sentir privilégié. Dans la vie, il y a des moments de tempête où on a du mal à percevoir le privilège, la grâce d'être là. Dans le service de Dieu aussi, on a, devant l'adversité, on a du mal parfois à se sentir privilégié. Mais je pense que justement, dans ces moments-là, il nous faut retrouver ce sens du privilège à un moment donné, ou s'en rapprocher, et se dire « Hey, tu sais que la vie est un privilège, que le service de Dieu est un privilège, et que le service de Dieu ensemble est un privilège. » Où en est-on à ce niveau-là? Alors que nous sommes un peu fatigués peut-être, lassés, pris dans la pesanteur du quotidien, découragé par le manque d'enthousiasme des autres, il nous faut peut-être aiguiser notre sens du privilège dans le service. En tout cas, c'est ce sens du privilège qui animait Paul quand il prend congé de l'église d'Éphèse. Il est en route vers Jérusalem et il s'arrête à Éphèse, qu'il a déjà visité. Et le texte nous dit que tout le monde pleure en allant au navire qui va emmener Paul vers Jérusalem. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'il ne le reverrait plus. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Et j'aime bien cette image-là. On a les gens de l'église d'Éphèse, ils sont sur la plage, ou en tout cas près du port. Et ce sont les adieux pour Paul. Alors, je ne me compare pas à Paul. Mais ce qu'ils disent, il y a beaucoup d'émotions, même si Paul est resté que 3 ans à Éphèse. Bon, c'est déjà un temps assez significatif. Mais il y a beaucoup d'émotions, là. Il pleure, il se jette au cou. Mais c'était surtout parce qu'ils l'ont entendu dire, Paul, qu'il ne le reverrait plus parce que certainement il va se passer des choses à Jérusalem. Difficile. Nous n'allons pas passer au tribunal à Jérusalem. Nous n'allons pas avoir de problème à Cannes, enfin j'espère. Mais ce qui est intéressant... Ce n'est pas tellement les émotions, c'est ce temps qu'il passe à se mettre à genoux et à prier avec eux. Il pria avec eux. C'est la prière qui marque ses adieux. Alors j'en ai déjà parlé, le 1er juillet, c'était notre culte d'adieu, magnifique journée que nous avons passée. En parlant du mot « adieu », je proposais de décomposer le mot « adieu », non pas en un mot, mais en deux. « Adieu ». Ajouter un accent sur le « a » et une majuscule au mot « Dieu ».« Adieu » en deux mots, qui n'a pas le sens d'un au revoir définitif, mais signifie, et c'est son sens premier, qu'on s'en remet à Dieu pour l'avenir. Vous, ici, à Pau, nous, à Cannes, on s'en remet à Dieu. C'est en lui que nous pouvons avoir confiance. C'est lui le rocher des siècles. C'est lui la forteresse de nos vies. Adieu donc. Haut les cœurs, moussaillons, en service sur le pont. Tout est entre ses bonnes mains. Entre les bonnes mains du capitaine. Mais quand on s'en remet à Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus rien à bouger dans nos petites existences. On ne peut pas dire à Dieu sans se mobiliser pour lui, à travailler sur le pont. Et la première mobilisation, et j'y reviens, dans les temps d'adieu, se trouve dans la prière, comme Paul sur la plage. Quand l'on dit à Dieu, on s'engage à prier les uns pour les autres, et vous allez prier pour nous, et nous allons prier pour vous. Mais vous allez prier pour nous, comme Paul le demande plusieurs fois dans ses lettres, en particulier dans Colossiens, encore une fois. J'ai commencé en 2010 une série sur Colossiens, quand on est arrivé. Je termine par des allusions à l'épître aux Colossiens. Paul, l'apôtre Paul, n'a pas peur, quand il parle de la prière, il encourage les Colossiens à prier, et puis il ose ajouter en plein milieu, « et priez aussi pour moi ». Et je vous exhorte à prier, et on s'encourage les uns les autres à la prière, et en même temps, je glisse cette petite parole, « Priez pour nous. » Que la prière soutienne votre persévérance, soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, dit Paul, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. Comme Paul, nous vous demandons de prier pour nous. Et nous allons prier aussi pour vous. Et pour vous donner une idée des prières, pour ces prières réciproques, je repensais à cette prière de Paul pour l'église de Colosse. Adieu et à la prière. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie, comme l'a rappelé Laurence. Et je crois discerner 3 sujets de prière qui correspondent aux 3 paragraphes. La première, c'est pour discerner et connaître la volonté de Dieu. Paul demande pour les chrétiens de Colosse comme un renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu et, comme le dit Paul aux Romains, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite pour chacun d'entre nous. Faire preuve de discernement, de sagesse, de recherche de la volonté de Dieu dans les décisions de la vie, les grandes décisions de la vie, mais aussi les petites. Et cela, non pas dans la crispation, par peur de ne pas connaître la volonté de Dieu ou d'être à côté de la volonté de Dieu, mais dans la confiance que Dieu révèle sa volonté à ceux qui la recherchent. Et je me dis que se poser déjà la question de la volonté de Dieu, c'est-à-dire quelle est la volonté de Dieu dans ma vie, c'est déjà marcher dans la volonté de Dieu. Celui qui ne se pose même pas la question de la volonté de Dieu dans sa vie, ni la question même de Dieu dans sa vie, est ipso facto à côté de la volonté de Dieu. Mais celui qui se pose quelle est la volonté de Dieu pour moi et qui s'attend à une réponse du Seigneur est déjà dans la volonté de Dieu, qui est qu'il recherche sa volonté. Alors, la volonté de Dieu, elle est révélée dans sa parole. C'est d'abord une volonté générale, que tous les hommes soient sauvés, que toute l'humanité soit sauvée, pas seulement l'humanité en tant que grande communauté, mais chacun d'entre nous. Ça, c'est la volonté de Dieu, que chaque personne soit sauvée. Et ce que Dieu veut aussi, c'est l'obéissance de ses enfants. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions de progrès en tant que chrétiens, dans notre rapport aux autres et au monde. Et tout y est dans cette parole, concernant la volonté de Dieu. Être sauvé, puis comment vivre en tant qu'être sauvé. Après, pour les détails, il y a peut-être pour les chanceux des révélations particulières, mais pour les chrétiens lambda comme moi, il y a une liberté de choix, il y a la liberté d'un enfant qui grandit et qui choisit dans l'amour et sous le regard bienveillant du Père. Ce que Paul demande aux Colossiens, ce qu'il vous adresse, c'est d'être attentif à la volonté de Dieu, tourné vers lui pour recevoir de lui des instructions, l'attention, l'acuité visuelle. Et le livre des Proverbes fait une promesse aux gens attentifs. Proverbe 16, 20. « Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. » Promesse de bonheur qui rejoint la définition de la volonté de Dieu de Paul dans Romains 12, « Ce qui est bon, agréable et parfait. » Le bonheur est dans la recherche de la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et maintenant, il y a un deuxième sujet de prière. Donc, Paul prie pour les Colossiens. Vous allez prier pour nous, nous allons prier pour vous, pour que nous et vous connaissions la volonté de Dieu pour nos vies. Et puis, deuxièmement, pour marcher au rythme du plaisir de Dieu. Et je reprends Colossiens. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Et l'impression donnée par ce verset, c'est que c'est celle d'une activité tous azimuts, marcher ou se comporter dignement. On a déjà parlé la semaine dernière de ce qui est digne, mais là, il y a un autre angle. Et ce qui est marcher d'une manière digne, c'est lui plaire à tous égards, plaire à Dieu. Et Paul prie donc pour la vitalité, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot, mais la vitalité spirituelle des Colossiens. Et dans le jaillissement, on relève justement cette première phrase, « Marchez dignement dans le Seigneur en vue de tout sujet de plaisir », littéralement, du plaisir de Dieu. « Cherchez en toute chose le plaisir de Dieu ». Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de plaisir, et la joie viendrait de la satisfaction de nos plaisirs. Il y a Michel Onfray qui se fait le chantre de l'hédonisme, la recherche du plaisir, et on trouverait le bonheur. Même les joueurs de foot, quand ils sont un peu stressés, ils disent « Oui, mais je cherche à me faire plaisir sur un terrain d'abord. Je dois me faire plaisir. » Bon, ok. Le téléspectateur, on s'en fiche un peu, il doit se faire plaisir. Mais c'est pour éliminer le stress. Bon, bref. Mais le sujet de prière de Paul pour les Colossiens, pour les chrétiens de la bonne ville de Colosse, c'est de rechercher le plaisir de Dieu. Et c'est là qu'on peut trouver le bonheur. Parce qu'il me semble là qu'il y a une vérité, c'est que quand on s'occupe un petit peu trop de son propre plaisir, eh bien, il nous échappe, le bonheur. On en ressort de cette recherche du plaisir comme frustré, comme si notre plaisir n'était pas à la mesure de notre nature profonde. Et que la recherche du plaisir se révélait tout à fait insatisfaisante. Mais quand il s'agit de s'occuper du plaisir de Dieu dans nos vies, alors le bonheur nous revient comme par ricochet. Ou même le plaisir nous revient comme par ricochet. Dieu fait tellement bien les choses que son plaisir devient le nôtre. Alors, comment faire plaisir à Dieu ? Sans vouloir être trop simpliste, il me semble que l'on peut faire plaisir à Dieu comme un enfant peut faire plaisir à ses parents. Comment un enfant fait plaisir à ses parents ? C'est en leur faisant confiance. Pas seulement quand l'enfant dit « mon père, c'est le plus fort », on aime bien l'entendre, mais « ou ma mère, c'est la plus gentille des mamans », elle aime bien l'entendre, mais et c'est pas mal de chanter les louanges de ses parents, ça fait plaisir, mais c'est encore plus énorme quand l'enfant, devenu un peu plus grand, se met à appliquer dans sa vie ce qu'il a reçu de ses parents. Là, c'est trop fort. Et Dieu, c'est la même chose avec nous. Le plaisir de Dieu, c'est de voir que sa révélation, la révélation de sa volonté, son amour manifesté, est mis en pratique dans la vie de ses enfants. Tout ce qu'il voit être mis en pratique dans la vie de ses enfants, tout ce qui est important pour lui, l'amour, la justice, le pardon, l'entraide, ça lui fait plaisir. Et c'est un sujet de prière parce que nous sommes toujours tentés dans la vie par le chant des sirènes. Vous savez, dans l'Odyssée, quand Ulysse rentre, ces sirènes qui cherchent à l'entraîner vers les récifs. Ulysse, lui, s'était attaché au mât de son bateau pour résister au chant des sirènes. Eh bien, nos liens qui nous permettent de résister, dans le sens positif du mot lien, qui nous permettent de résister à l'attrait de nos petits plaisirs éphémères, c'est la recherche du plaisir de Dieu. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage pour le plaisir de Dieu. Et puis, le troisième sujet de prière apparaît au verset 11, que je relis. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter, persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Et je l'aime beaucoup ce verset 11 de Colossiens 1, parce qu'il, littéralement, il prie pour que les Colossiens soient puissantisés à tous égards, puissantisés en toute puissance, dynamisés en toute dynamique. Et le verset commence très fort, et on s'attend à ce que le verset finisse comme il a commencé, en toute puissance, que tout le monde casse la baraque à Colosse, qu'il y ait un réveil à Colosse, que ce soit spectaculaire, sensationnel. Mais non, la suite du verset est beaucoup plus mesurée. Que vous soyez puissantisés à tous égards, dynamisés en toute dynamique, afin que vous soyez persévérants et patients. Afin, en vue d'une persévérance, d'une patience à toute épreuve. C'est fou. La puissance pour la patience. La dynamique pour la persévérance. Et là, je crois que c'est un sujet aussi de prière pour nous tous, à Pau ou à Cannes. La puissance de Dieu en plein rendement. Une manifestation pleine et entière de la puissance de Dieu dans ma vie. Mais j'augmente le volume pour parler de la puissance. Mais pour que je puisse être, pour que tu puisses être patient et persévérant dans ta vie de tous les jours. Et dans notre monde toujours en recherche de sensationnel, et l'Église chrétienne évangélique n'est pas épargnée. Dans notre monde toujours en recherche de sensationnel qui met l'accent sur la performance, le fantastique, l'exceptionnel, il est bon de voir que Dieu nous veut simplement patient et persévérant. Et que l'on s'accroche au Seigneur Jésus malgré toutes les tempêtes de la vie, les deuils, les maladies, les déceptions, les frustrations qui ne tarderont jamais à nous barrer la route. que l'on s'accroche à la vie chrétienne avec les dents, comme mon ami à la Légion étrangère, avec lesquels j'avais fait un camp, je faisais des camps en Belgique, et quand on a eu 17 ans, on n'a plus eu de nouvelles de lui. Il s'est engagé à la Légion étrangère, en Corse. Et pendant 10 ans, on n'a plus eu de nouvelles. Il est devenu pilote d'hélicoptère, et Jean-Christophe Gallarato l'a connu. C'était un gars connu. Et 10 ans après, on l'a retrouvé, et je lui ai dit, et ta foi, là ? Parce qu'on faisait des camps chrétiens ensemble. Et ta foi. Il m'a dit, bon, je me suis accroché. Avec les dents. Il avait des dents superbes. Et il m'a mimé les dents. Je ne vais pas vous mimer, ça, maintenant. Avec les dents, mais je me suis accroché. La puissance de Dieu manifestée dans la persévérance de ce soldat de la Légion étrangère. S'accrocher à la fois comme Job, à qui il ne restait plus que la peau des dents, lui. Et la peau des dents, c'est l'émail, je suppose. C'est très fin, quand même. Nous sommes les serviteurs de Dieu, des intendants de la grâce si diverse de Dieu. Et ce que Dieu, en fait, attend des gérants de la grâce, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors j'ai écrit la méditation du journal, la dernière méditation, hein, Jacqueline, je précise, c'est la dernière. Et justement là-dessus, sur la fidélité de Dieu, le journal est sorti aujourd'hui. Et j'ai repris cette parole de Paul qui est libératrice, 1 Corinthiens 4, verset 2. « En fin de compte, ce qui est demandé à des gérants ou à des serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Et j'aime beaucoup ce « en fin de compte », ce « finalement ». Somme toute, et après réflexion, quand on y réfléchit bien, quand on est passé à travers toutes les phases de la vie où on essaye d'être bon, où on essaye d'être performant, etc. En fin de compte, finalement, ce qui compte vraiment, ici à Pau, à Cannes, dans votre vie, c'est que vous soyez trouvés fidèles. La fidélité de Dieu à sa parole et la fidélité à Dieu dans son service. Et je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, de prier les uns pour les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres, pour que cette fidélité nous anime jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, quand il viendra nous chercher et qu'il pourra dire « Viens, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, viens rejoindre la joie, l'ultime joie, la joie de ton maître ». On vous dit, Yvonne et moi, on vous dit adieu. Et on se mobilise dans la prière. On veut le faire, en tout cas. Nous pour vous, vous pour nous. Adieu à tous les saints qui sont ici à Pau et qui ont été rachetés à un grand prix. Et je voudrais terminer par une bénédiction de Paul aux Thessaloniciens, que nous allons vivre comme une bénédiction avant de chanter « Mon ancre et ma voile ». C'est mon chant préféré. Donc j'ai pu choisir, après la prédique, le chant. Donc j'ai choisi mon chant préféré. Et qui, comme Paul, s'en va d'Éphèse sur la plage en bateau. Mais je vous invite à vous lever pour recevoir cette prière bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle. Et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères, priez aussi pour nous. Amen.